commencer la deuxième heure de ce 1124e Sweet Home Chicago avec notre invité Philippe Fernandez du groupe Big Days et la présentation de ce nouvel album qui sort ces jours-ci, Chicken in the Car and the Car Can't Go. Un nouvel extrait puisque c'est également le disque du mois. On en a déjà découvert deux tout à l'heure. Voici à nouveau Big Days avec Set Him Free. Set Him Free, extrait de cet album qui s'appelle Chicken in the Car and the Car Can Go, disque du mois pour Sweet Home Chicago en novembre par Big Days. Et je suis au téléphone, là, tout de suite, en direct, avec Philippe Fernandez. Salut Phil.
Salut Marc, salut.
Ah, on t'entend fort et clair, c'est bien. Où te trouves-tu actuellement, Philippe ?
Là, je suis à Amsterdam.
Amsterdam, donc chez toi, tout simplement.
Voilà.
Et voilà, et par la magie du direct, par la magie du téléphone, également dans le studio du 666. Comment ça va, Phil, et comment ça se passe au lendemain de la sortie de cet album ?
Très bien, écoute, content, parce que c'était laborieux, puisqu'on a commencé ça un petit peu juste avant l'affaire de la pandémie, qui d'ailleurs n'est pas finie. Mais, donc voilà, bon, écoute, la boucle est bouclée, l'album est sorti, il est fait, il est enregistré, il est chroniqué, il est diffusé, la preuve, et puis tu nous appelles, donc c'est parfait.
Et ben voilà, et puis les interviews s'enchaînent, j'imagine que là, ça va être la grosse promo. On évoquera cet album, bien sûr, et tous ses contenants, ses tenants et ses aboutissants, ainsi que les musiciens qui t'accompagnent. Mais avant, peut-être démarrer cette interview, Phil, par une petite présentation pour les quelques extraterrestres qui n'auraient pas entendu parler de toi. Le groupe Big Days existe depuis 1996, ça fait un quart de siècle, ça, disons, c'est énorme.
Ça fait un quart de siècle, mais bon, l'avantage, c'est que, premièrement, on a commencé cette histoire, on était très jeunes, donc à peine la majorité, on va dire.
Ouais.
Et le deuxième avantage, c'est que dans le style de musique qu'on fait, on peut jouer jusqu'à 80 ans. La preuve, t'as les Stones qui jouent ce soir à Atlanta.
Excellent. Et effectivement, donc Big Days, qui est un groupe... en fait, on assimile souvent ton nom, ton patronyme, Philippe Fernandez, au nom du groupe. Big Days, c'est bien le nom du groupe qui est toi et les autres.
Bah, pour moi, c'est un groupe. Après, s'il y a des moments où on le tourne sur un solo artiste, sur une personne, sur moi, Bon, le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais si tu veux, le nom, il est associé à moi. Donc, mais après, oui, pour moi, j'ai toujours préféré l'aspect groupe. Et de toute façon, la musique qu'on fait, les chansons, sont plus dirigées sur ça que sur une personne, quoi, de toute façon.
Et donc, la jeunesse de ça, bah, c'est, tu l'as dit, aller vers 18-20 ans, tu te décides à former un groupe. Mais auparavant, bien sûr, tu as appris à jouer de la guitare. Ça s'est passé comment? Tu avais un environnement familial favorable pour ça ou pas du tout?
Non, alors moi, je n'avais pas de musicien dans ma famille directe. Mais non, en fait, c'est les rencontres. Tu sais, les rencontres au bahut avec des copains qui ont un frère qui joue dans un groupe. Et après, pour monter un groupe, c'est des rencontres dans les soirées. Tu rencontres quelqu'un qui dit, lui, il fait de la batterie, lui, il fait de la basse. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Lamine, avec le premier batteur, Jérôme David, etc. Et puis après, il y a eu Marco à l'harmonica et puis Rodolphe Dumont qui jouait jusqu'à le précédent album avec nous. Mmh. Et c'est une soirée, dans presque les débuts de Big Death, on n'avait même pas fait encore le premier album. Une soirée, un concert où il y avait les bluesers, il y avait nous, et c'est comme ça que tu... Voilà, c'est les rencontres. Tu connais ça.
Bah oui.
Plus tu traînes avec ta guitare, plus tu vas rencontrer des gens, ça ouvre des portes.
Tu viens d'évoquer deux musiciens qui sont toujours avec toi 25 ans après. Vous êtes 6 actuellement et on va dire 50% du groupe est dans la formation originale. C'est vrai que tu parlais des Stones, ils sont pas loin du même pourcentage hein, maintenant.
Alors, pas tout à fait 50%, puisqu'en fait, là, je te parlais de Rodolphe Dumont parce que c'était la rencontre avec les bluesers, mais lui, il a quitté le groupe là, juste avant d'ailleurs la
voilà.
pandémie. Donc le nouvel album, c'est Paco Leftien qui joue de la guitare, qui était connu pour dans le groupe Swampini en fait.
C'est ça, mais j'évoquais Lamine et Marc et plus toi, donc ce qui fait 3 sur 6 quand même, on est
vrai,
voilà bien
c'est
sûr.
Vrai, tu as raison.
Et donc Marc Schaller qui te suit fidèlement à l'harmonica, au back vocals également, et puis Lamine Guerfi à la basse. Pour être tout à fait complet, maintenant la formation actuelle, tu as piqué le batteur de Fred Chapelier ou de Nico Wintoussin ou de Paul Persson, c'est Guillaume Destarac. Hein, c'est ça.
Alors en fait, moi je ne vais pas forcément dire que moi je le pique ou que quelqu'un nous le pique, je veux dire, non, c'était croisé avec Guillaume, je pense, il jouait déjà avec Fred, et même il avait déjà joué avec Nico Wayne, et puis on aussi entre Steve Belmont et puis Guillaume, et puis même là on va rejouer là, ce week-end avec Stéphane Mignana qui jouait dans les débuts avec nous.
Oui,
tu veux, plus tu fais de concerts, plus c'est compliqué. Donc, tu es obligé d'avoir 3 bassistes, 3 batteurs. On va dire que c'est plus un collectif. Voilà. Après, si tu veux en faire ton métier et jouer tous les week-ends, vu que le réseau, puis en plus avec ce qui s'est passé là depuis 2 ans, c'est tellement compliqué, les agendas, ça sonne au dernier moment, on annule, on recommence, on ne sait pas. Donc voilà, on va dire que c'est un collectif.
Voilà, et donc plusieurs instrumentistes qui vont pouvoir t'accompagner. Tu évoquais Steve Belmont, qui joue bien sûr avec Gaël Busvel la plupart du temps. Il y a un de tes batteurs qui est parti aux États-Unis qui fait carrière là-bas, je crois aussi.
Il a joué sur le deuxième album, sur Night After Night, c'est Nico Léofonte.
Voilà.
Alors lui il était déjà arrivé aux US avant qu'on fasse le premier album. Oui, très, très belle carrière. D'ailleurs, là, il était encore, il y a peu de temps, batteur des Fabulous Thunderbirds avec Kim Wilson.
C'est
quoi,
ça,
toi,
oui, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est génial. Hallucinant.
Bah, c'est la magie d'avoir un truc dans la tête et d'arriver à le faire jusqu'au bout. Et aux États-Unis, il y a encore des... Je pense que si tu te donnes les moyens, c'est encore possible.
Ouais, ça reste le pays des possibles. Pour être tout à fait complet avec le line-up actuel, donc Bala Pradal n'est plus au piano depuis un certain temps. Et c'est Léa Worms qui est là sur les 88 touches derrière toi.
Léa, elle était déjà là sur le précédent album. Même si c'est Lorient Dair qui avait fait la majorité des claviers, mais elle avait joué sur un titre.
Ouais.
Et maintenant, elle a joué sur tout l'album, sur celui-là. Enfin, oui, dès qu'on peut jouer avec elle, et dès qu'elle est libre, ou dès qu'on a la possibilité de jouer en formation complète, c'est-à-dire à 6, parce que des fois, ça nous arrive de jouer à 5, voire même à 4, selon les moyens des concerts, c'est elle qui est appelée en premier, et si elle peut, tant mieux. Pour moi, elle est membre du groupe, ça fait plus de, si tu dis pas de bêtises, 3 ans maintenant, facilement, si c'est même pas 4. Je ne vois pas le temps passer qu'elle joue avec nous. Quoi.
D'accord. Voilà. Alors voilà, tous ces musiciens qui t'accompagnent et puis les autres qui gravitent autour de cette formation Big Days. Et selon effectivement les agendas de chacun, on peut jouer, on ne peut pas jouer. Non, parce qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu avant, ont trouvé des dates précédemment. Il n'y a pas d'exclusivité ou effectivement il y a une préférence pour les concerts de Big Days pour certains d'entre tes musiciens?
Je pense qu'il y a une exclusivité morale, mais si tu veux, après, sur le papier, il faut quand même être réaliste. Et le circuit qu'on fait, il est pas, je veux dire, tu peux pas en France ou en Europe rémunérer quelqu'un en jouant du blues en étant un groupe français et lui donner assez de sous pour qu'ils te donnent l'exclusivité à 100%. Donc moi, je comprends parfaitement qu'on puisse aller à gauche, à droite. Maintenant, il faut que ça soit fait tranquillement et avec du temps. Mais là, je te dis, c'est tellement compliqué, la sortie de Covid ou sortie ou retour de Covid, on ne sait plus trop là. Non, mais écoute, oui, je te dis principalement, c'est le groupe là, le groupe qui est sur la pochette de Chicken and the Car Can Go, c'est le groupe qui est normalement, dès que possible, sur scène avec nous.
Phil, il y a quelque chose qui est caractéristique de ta carrière, de la constance d'abord, mais j'ai envie de dire aussi le sérieux, le travail évidemment, mais les qualités requises pour en arriver là, ce 10e album en 25 ans de carrière, c'est d'abord le sérieux. Est-ce que c'est ça qui caractérise ton travail? Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs qui te qualifieraient mieux?
Alors, sérieux, je te remercie. Je le prends comme un compliment. Moi, je vois plus, je dirais plutôt le bordel organisé.
D'accord.
Je peux pas faire ça à la rigueur, quoi, tu vois. Mais
de rigueur, je parlais de sérieux et puis de constance, ouais. En fait, pas forcément la rigidité, justement, le fait aussi d'être capable d'organiser tout ce que tu fais. On rappelle également que tu n'es pas seulement le leader de Big Days, mais que tu organises aussi des jams à quelques centaines de kilomètres de chez toi, sur Paris.
Ouais, quand je suis à Paris, ça fait des années qu'on fait des jams. Ah oui. Là, maintenant, le truc à la Huchette, plus l'organisation des concerts, tout ça, les répétitions. Et en plus, le groupe, il est éclaté géographiquement. On est vraiment... et on arrive à se retrouver, les veilles de concerts, à caler des répètes. C'est vrai que c'est pas facile. Je vais pas me plaindre. Je veux dire, Non, écoute, quand tu dis sérieux, moi, je pars du principe que c'est quand même un métier. Et que du moment où on te rémunère et qu'on te rencarte pour venir jouer à un endroit, il faut respecter le contrat. Donc, si tu veux, ça englobe tout. C'est pas le fait d'être seulement à l'heure et de jouer ce que tu as, ce que le gars veut entendre, ce qu'il a vu sur des vidéos, sur un disque, et puis d'être sérieux parce que les gens ont besoin de se marrer et puis ils payent une place de concert. Donc voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça.
Tout à fait. On évoquait tout à l'heure Nico Léofonte et puis sa carrière américaine, mais toi aussi, tu as ta carrière américaine. Ça fait des années que tu as des connexions. Le dernier album a été mixé à Chicago, mais il y a des choses qui se sont passées sur Austin, au Texas notamment. Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, tiens, je vais aussi travailler avec des musiciens américains, je vais aussi aller enregistrer là-bas de temps en temps? Pour quelles raisons? Est-ce que le son est meilleur? Les rencontres vont être différentes? Ça va être plus sympa avec les musiciens que tu adules et avec qui tu aimerais collaborer? Qu'est-ce qui te meurt?
En fait, si tu veux, déjà, moi, j'aime bien revenir aux sources des choses. Donc, si on parle de ça, si tu aimes le blues, si tu aimes le rock'n'roll, c'est bien d'aller aux États-Unis de temps en temps. Je sais bien qu'en 2021, tout est planétaire maintenant avec Internet et tout. Mais n'empêche que juste avant d'ailleurs la pandémie, j'étais à Chicago pour le Chicago Blues Festival et après, je suis allé au Texas. Et c'est vrai que j'étais pas retourné depuis quelques années. Et à chaque fois que je reviens là-bas, ça transpire le blues. C'est leur musique. C'est comme si dans le terroir pour la bouffe ou le vin, si tu vas dans la région de Bordeaux, en Bourgogne ou ailleurs en France, et c'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut aller là-bas. Après, c'est vrai que d'enregistrer là-bas ou d'enregistrer en Europe, maintenant, je vois plus trop vraiment la différence. Le matériel, il est à peu près le même. Bon, après, c'est le cadre. Je te dis, c'est l'ambiance. Si tu fais un disque à Chicago, moi, j'étais invité sur le dernier album de Liz Mandeville à Chicago et on a enregistré avec des musiciens qu'elle utilise là-bas, qui sont dans son groupe, on va dire, si je peux me permettre l'expression. Et c'est vrai que c'est une autre façon de fonctionner. Et puis, c'est un métier et c'est la création, le boulot, faire des disques, aller tourner, c'est un métier depuis vraiment longtemps là-bas.
Les musiciens américains, les conditions d'enregistrement, et puis également les Américains qui viennent en Europe et que tu accompagnes. Tu viens d'évoquer Liz Mandeville, vous avez fait des dates ensemble. On peut penser également à une collaboration un tout petit peu plus ancienne, Sax Gordon Biddle. Il y a d'autres artistes comme ça que tu as pu soit accompagner ou soit qui t'ont accompagné, qui se sont inclus dans le Big Days Group.
Alors en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu Gordon, il y a eu... donc là, la dernière personne, c'est Liz Mandeville, mais c'était plus un featuring... Elle venait sur des dates qu'on bookait, elle faisait une partie du show.
D'accord.
Et en fait, pour lui renvoyer la balle, le fait de nous avoir accueillis, moi et mon pote Gilles Gabisson, à Chicago, nous avoir invités sur l'album. Et ça s'est bien goupillé, elle a pu faire quelques dates avec nous. Mais moi, je n'ai pas été vraiment dirigé dans le fait d'être sideman, de faire venir des gens. On aurait pu, à un moment, j'y avais pensé, mais on a préféré garder l'identité de groupe et faire des compos et avancer, essayer de vendre cette histoire. Quoi.
Alors, la connexion avec les États-Unis, elle n'est pas terminée. On va évoquer tout à l'heure ce disque. En attendant, on va écouter un nouvel extrait. On rappelle que ce disque qui s'appelle Chicken in the Car and the Car Can Go est sorti juste hier. Voilà, c'est tout frais. C'est une distribution Soka Disque. On peut le trouver absolument partout. On va écouter un nouvel extrait de cet album de Big Days avec Flip the Coin. On se retrouve juste après. Nothing's gonna change until another day. Il y a toujours autant de blues, autant de rock'n'roll, autant de soul music, et puis également cette idée de collectif qu'on a évoqué à l'instant avec Phil dans le groupe Big Dez, et notamment dans ce titre qu'on vient d'entendre, Flip the Coin. Toujours au téléphone avec Phil Dez.
Salut, salut.
Et donc on parle de cet album maintenant, justement le titre qui m'avait un petit peu interpellé quand j'ai ouvert l'enveloppe l'autre jour, Chicken in the Car and the Car Can Go, et puis quasiment aussitôt après, bizarrement, il a fallu quand même un petit peu de temps, je me suis aperçu que ça désignait Chicago. J'ai fait une petite recherche, en fait ça date d'il y a presque 100 ans cette histoire, Chicken in the Car and the Car Can Go, ça veut dire Chicago. Pourquoi donner ce titre à cet album, Phil?
Alors déjà parce que j'aime beaucoup cette ville, j'y suis allé plusieurs fois et c'est vrai que j'ai un coup de cœur sur cette ville. Et je l'avais jamais fait, c'est un rendu d'album, on n'avait jamais fait. Alors ça a été fait par plein de gens, de parler de Chicago ou de parler de New York, tu vois, enfin bon bref, mais nous on l'avait jamais fait. Et puis je te disais tout à l'heure que quand je suis allé la dernière fois, juste avant la pandémie là, au Chicago Blues Festival, c'est là que je me suis dit, j'étais inspiré sur ce morceau, et je me suis dit je vais écrire quelque chose. Et après, en revenant à Amsterdam, en peaufinant les textes, j'ai mon ami Otis Ownersby, que tu vois sur la pochette,
un
musicien américain immigré à Amsterdam depuis presque 30 ans, et qui m'aide pour les textes en américain. Quoi. Je viens le voir, je lui montre ce que j'ai écrit. Il est co-écrit, on va dire. Il écrit, enfin, il me corrige. Et c'est lui qui m'a dit... je lui ai dit « Chicken in the Car Can Go », j'ai déjà lu ça quelque part, et il m'a dit « ça veut dire Chicago ». Je lui ai dit « mais pourquoi ?» Et en fait, bon, c'est sa version, après on l'apprend ou on l'apprend pas. Et il m'a dit que c'est à l'école maternelle, lui en tout cas, il a 70 ans, il m'a dit que quand il était petit à l'école maternelle, pour apprendre les grandes villes américaines, il te donnait des phrases comme ça pour que les gamins s'en rappellent. Donc « Chicken in the Car Can Go », Chicago.
Et voilà, ça commence par « chi », ça finit par « go ». Et alors, il y a une autre version de cette phrase, c'est presque la même, c'est la première plage de ton album, « Chicken in the Car and the Car Won't Go ». C'est ta version à toi ou c'est
Voilà,
c'est juste une petite
c'était pour faire voilà une petite variante avec la chanson et le titre de l'album, mais légère variante.
Alors, toutes ces chansons ont été écrites par toi-même. Quelle était la part du groupe dans les arrangements, dans la finalisation en fait de tout ce disque que l'on découvre maintenant?
Si tu veux, moi j'arrive avec les fondations en répète, c'est-à-dire une mélodie qui est chantée, même en yaourt des fois, et j'arrive avec les grilles, vraiment la fondation des chansons, et on les joue, on voit ce que ça donne tous ensemble, on choisit si quel instrument est le mieux pour ce titre, qui va faire le solo et tout ça. Donc voilà, chacun met sa couleur, ça c'est indéniable, mais c'est vrai que principalement, le texte et la mélodie et les fondations, c'est moi qui les ramène.
Et puis plus particulièrement, parce que là, tu viens de répondre pour l'ensemble du groupe, c'est vrai, mais je voulais peut-être une réponse complémentaire par rapport au travail de Léa Worms au clavier. J'ai quand même l'impression que le piano occupe une bonne partie de l'instrumentation, même si vous êtes deux guitaristes plus un harmoniciste et puis basse batterie derrière. Léa, quel était son travail en particulier? Elle a fait ce que tu lui as demandé ou elle a apporté vraiment des idées à elle?
Elle a été aiguillée, mais elle a eu quand même carte blanche et je trouve que c'est super ce qu'elle a fait sur ce disque.
Bah oui, c'est pour ça. Ouais.
Un boulot de coloriste magnifique. Non, elle a fait principalement des overdubs à la maison qu'elle nous envoyait après, on écoutait. Non, il n'y a pas eu vraiment de... Bon, après, de mémoire, je pense si, j'ai dû lui dire, sur celle-là, fais du Wurlitzer plutôt que du piano. C'était plutôt une direction sur le son.
Oui, d'accord.
Pas vraiment instrumental, enfin, harmonique. Voilà, je cherchais. Pardon.
Harmonique, voilà. Cet album qui s'appelle Chicken in the Car and the Car Can Go, on l'a dit tout à l'heure, c'est ton 10e. Quelle place penses-tu qu'il va occuper dans ta discographie? Est-ce que c'est un album particulier ou c'est juste un album de plus de Big Daze?
Oh, je pense que c'est une continuité. Après, on peut appeler ça un petit peu un retour aux sources, puisque les trois précédents albums étaient un peu plus rock, on va dire. Après, c'est si on met des étiquettes, mais bon, pour moi, il y a toujours tous les styles que tu retrouves dans les albums de Big Daze, c'est les styles qu'on aime bien. Mais oui, il est un peu plus frais parce que on a tourné une page avec le claviériste qui était là pendant 20 ans, avec le guitariste aussi. Donc si tu veux, c'est toujours le même son, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand tu t'habitues à avoir tous les 3, 4 ans ou 2 ans un album avec les mêmes musiciens, pour se renouveler, c'est pas facile. Là, il y a un peu de sang frais, comme on dit.
Alors, on peut revenir sur ta discographie. On pense à Ceylon Blues en 2003, et puis ensuite, ça s'est enchaîné très très rapidement. Night After Night en 2004, You Can Smile en 2008, qui était un album assez flamboyant, un live en 2009 qui s'appelait Late Live, Lazy Star en 2010 avec une pochette qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, je ne sais pas si tu t'en souviens de cet album Lazy Star. C'est pas très radiophonique ça, il va falloir que les gens aillent voir vraiment sur ton site, bigdaze.com ou fouillent dans leur discothèque. L'album Wet Paint qui était sorti début 2012, le Live on Pretty Beat Up en 2015, cette compilation 20 Years en 2016 pour fêter donc les 20 ans de l'existence de Big Daze, et puis Last Train en 2018. Entre 96, la formation du groupe, et Ceylon Blues 2003, il y a eu quand même des démos, il y a eu des choses enregistrées.
Oui, il y avait eu un disque fait dans un bon studio, bon studio parisien, mais on l'a pas pressé, on en a fait comme ça, comme tout le monde faisait à l'époque, à la maison, tu faisais des photocopies, voilà, donc il y a que ça. Sinon, non, c'était l'époque des premiers clubs et puis des premiers voyages, en fait. Quoi. Donc, voilà.
Alors, on évoquait donc Otis Hornsby par rapport à cet album, ce nouvel album qui t'a fortement inspiré. Et puis, on peut parler également des conditions d'enregistrement. Un disque enregistré en France et mixé à Chicago. Pourquoi ces deux choix, Phil?
Alors déjà, au départ, on voulait, en fait, comme Pascal, le nouveau guitariste, Paco Leftien du groupe, un home studio avec une salle de répète, avec un ordinateur, un Pro Tools, enfin l'équivalent d'un Pro Tools et des micros. On s'était dit, on va enregistrer une maquette et puis après on ira en studio ailleurs. Et en fait, on a fait quelques prises et on s'est rendu compte que ça sonnait déjà super bien, quoi. Et puis surtout, on était très confort chez lui. Bon, à part l'inconfort, c'est le fait qu'il y a eu cette pandémie qui est arrivée. Donc ça a découpé les sessions d'enregistrement avec des mois qui passaient et tout. Ça, c'était assez pénible. Et puis pourquoi à Chicago? Parce que je venais de faire quelques mois avant le disque avec Liz Mandeville. Et elle l'avait fait mixer, enregistrer et mixer par le même technicien son qui était venu l'enregistrer chez elle, d'ailleurs. Pareil, dans le même mode, mais à Chicago, dans sa salle de répète en dessous de sa maison. Elle avait fait venir tout le groupe. Et il a fait un boulot, ce mec. Moi, j'étais vraiment sur le cul quand il a envoyé les titres. titre où je jouais. Voilà, donc je me suis dit, je l'ai contacté pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a fait une proposition, je trouvais ça super, et on a foncé, voilà. Donc j'y serais allé s'il n'y avait pas eu la pandémie, je l'aurais fait avec lui. Mais là, on a fait ça à distance, il m'envoyait les titres, j'écoutais, je validais, et puis voilà.
Le garçon dont tu parles s'appelle Jim Godsey, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est un super technicien son à Chicago, qui a bossé en tant que technicien son assistant. Il était très jeune, il avait, je crois, même pas 20 ans, il m'a raconté ça à Memphis, dans l'album Instep, super album de Stevie Ray, quoi, tu vois.
Ah bah oui, effectivement, j'imagine bien, on est en 1989, là, une autre époque, mais ouais, une belle époque pour le blues, effectivement.
Il était technicien son, il plaçait les micros et tout ça, mais c'était le Jim Gaines, voilà, je cherchais le nom.
Ah voilà, Jim Gaines, bah bien sûr, oui.
Voilà, qui l'avait embauché. Très bien. Il a fait ses armes, quoi, quand même, quoi, ce technicien son. Il a super bien bossé, et puis, c'est à l'américaine, tu vois, c'est toujours positif, et il te booste même... te booste tout le temps, quoi. C'est des gens qui sont là pour... Ouais, ça tire pas en arrière, ça va de l'avant, quoi.
C'était la fin de carrière de Stevie Ray, c'est à l'époque où Jim Pugh l'avait rejoint quelques années plus tôt, effectivement. Pour être complet sur les musiciens et puis également toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet qui est devenu concret maintenant, qui est sorti hier, qui s'appelle Chicken in the Car and the Car Can Go de Big Days, on peut également citer le travail de pochettes et puis de photos. On peut parler de Wax Theory qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui fait plein de belles photos, et pas que toi qui va, je sais pas, au moins 3 concerts par jour, c'est pas possible autrement. Et puis Swamp Factory, alors qui est derrière ce nom Swamp Factory pour avoir réalisé cette pochette, Phil?
Alors il a fait, alors ça c'est Bruno Lefebvre, en fait, Swamp D'accord. Factory, c'était le bassiste de Swampini à l'époque, du groupe Swampini, voilà, et il est graphiste, surtout dessinateur. Il nous a fait plusieurs pochettes, et c'est lui qui a fait cette pochette.
Et puis il y a également Jonas Molina, alors je ne sais pas qui c'est.
Alors ça, c'est un guitariste, un copain espagnol à Madrid, Jonas Molina, qui est aussi graphiste. C'est lui qui a fait la pochette, qui a mis en page tout, la disposition des photos de Thierry Wack. Et voilà, c'est graphiste, dessinateur graphiste, et puis photographe Thierry Wack, qui est super sympa, et qui est un mec super cool et très talentueux, qui fait des super photos, ça c'est vrai, ouais.
Voilà, avec une pochette très, très bande dessinée, enfin on peut penser aux vieilles bandes dessinées américaines des années 50-60, un peu le style Robert Crumb. Chicken in the Car and the Car Can Go, on a donné la signification de ce titre tout à l'heure, 10e album de Big Days, un album que tu t'apprêtes maintenant à défendre sur scène. On peut parler des prochaines apparitions de Big Days en live?
Alors là, très prochainement, ouais, avec plaisir, très prochainement, le 20 novembre, sera à Montfort sur Meux au festival. Je pense que tu vas venir, je crois.
Ah ben oui, on va être présent, ça c'est sûr. Il faut pas louper ça.
Voilà. Et puis on est très content parce que ça a été repoussé 2 fois en 3 ans, quoi, tu vois. Donc oui. Et puis après, derrière ça, la date importante, c'est le 5 février 2022 à Paris au Sunset. On fera la présentation de l'album et les 25 ans du groupe.
Alors 5 février 2022, on va noter cette date-là. Donc au Sunset, c'est toujours le Sunset Sunside ou simplement le Sunset?
C'est ça. Les deux clubs, Sunset Sunside, mais là on sera au Sunset, on sera en dessous, au sous-sol.
Très bien. Les 25 ans de Big Days qu'on fête également avec cet album qui s'appelle Chicken in the Car and the Car Can't Go. Est-ce que, Phil, j'ai oublié de te demander quelque chose ou tu aurais une petite annonce à faire avant de conclure cette interview dans Sweet Home Chicago?
Ah bah écoute, j'en profite pour passer, même si je sais qu'il n'y a plus de frontières avec une radio en podcast ou sur Internet, mais je voulais passer le bonjour. J'allais te demander hors antenne des nouvelles, mais je vais le faire en antenne. Je voulais passer le bonjour à Marc Mitou, qui est dans le coin de chez toi, là. Ouais. Voilà, j'espère qu'il va bien, lui et sa famille, quoi. Donc,
il va
si
bien.
Tu le vois, pas souvent.
Ben, on se voit régulièrement, je peux te dire. Il va très, très bien.
Bon.
Merci, c'est sympa pour lui. Oui, on se souvient du Bougie Blues Festival. C'était il y a quoi, 15 ans, une paille, c'est ça?
Ouais, ça passe.
Phil, merci beaucoup pour cette interview dans Sweet Home Chicago. Merci. Et puis on va continuer à écouter ton album tout au long de ce mois de novembre. À très bientôt.
Super sympa, merci.
Salut Phil. I'm not.
But my heart keeps telling me I will always true. Let's fall in love again. Let's fall in love again. Just one more time. It was purple and the stars will not leave. Just standing here with my heart. Let's take another chance. I belong to you. We both found you. Yes, we do.
Fall in Love Again, extrait de cet album de Big Day's Chicken in the Car and the Car Can't Go. Ce disque continuera d'être diffusé dans les dans le prochain, au moins, Sweet Home Chicago, les deux prochains même, puisque c'est, allez, on est le 13 novembre, il reste l'émission du 20, l'émission du 27. On va avoir le temps de décortiquer tout cet album. Ça a déjà été le cas depuis le début du mois. Et à propos de classement, bah, Big Day's, ce disque-là est déjà premier de l'airplay du collectif des Radio Blues. Première position devant l'album de Caroline Wonderland, Tempting Fate, et celui de Jérôme Pietri, Last of the Fishing Days. Voilà ce classement que vous pouvez retrouver également sur radioblues.com. On poursuit avec un disque qui vient d'être évoqué dans l'interview, l'album de 1989 de Stevie Ray Vaughan, son dernier album qui s'appelait In Step. Voici Tightrope, Stevie Ray Vaughan. We'll be right back.
looking back in front of me, the mirror's a grin.
Monsieur Stevie Ray Vaughan, c'était il y a 32 ans, son dernier album en date, In Step. On est en 1989 avec ce titre, Tightrope, un artiste cité par Phil Fernandez tout à l'heure dans cette interview. On poursuit avec un grand artiste de blues qui a fêté cet été ses 85 ans et qui va faire l'objet d'un dossier dans le prochain numéro de Soulbag. Je veux parler de Buddy Guy qu'on va écouter sur deux titres. Tout d'abord, on va revenir en 2018 chez Silverton Records avec son dernier album en date, The Blues Is Alive and Well. Et puis ensuite, peut-être pour vous, vous découvrirez ou redécouvrirez ce fabuleux album qui s'appelait Diamond Right, I've Got the Blues en 1991 avec une version absolument frissonnante et magnifique de Black Knight. Voici Buddy Guy.
A drink. Too tired to listen. I'm too tired to think. You're starting on me, trying to pick a fight. First thing out of your mouth, why was you last night? Don't go there, baby. You better watch just what you say. I said, woo, guilty damn. Cost $300.
Buddy Guy, en 2018, dans cet album The Blues is Alive and Well, le titre Bad Day, qu'il partage avec le batteur et producteur Tom Unbridge, également Willie Weeks à la basse, Emil Justian à l'harmonica, Kevin McHenry au clavier et Rob McNeely à la guitare rythmique. On verra maintenant en 1991 avec un disque qu'à l'époque, la radio, je peux vous dire, j'ai passé je ne sais pas combien de fois dans Sweet Home Chicago et je pense qu'il avait trusté la platine pendant plusieurs mois. Cet album Diamond Right, I've Got the Blues de Buddy Guy, sorti déjà chez Silverton Records, avec pas mal d'excellents musiciens, dont ceux qu'on va écouter sur ce titre Black Knight, une reprise de Jesse Robinson. Je veux parler de Greg Herzab à la basse, Richie Hayward à la batterie, Pete Wickfield au piano, Mick Weaver à l'orgue et Neil Hubbard à la guitare. Soyons complets avec les invités de ce disque qui figurent sur d'autres titres. Il avait carrément invité Jeff Beck, également Eric Clapton et Mark Knopfler. Voilà, on se refusait rien à l'époque chez Buddy Guy. Voici ce titre, on va l'écouter en intégralité. Ça s'appelle Black Knight, frisson garanti.
Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. I keep crying for my baby, and there ain't another day is gone. Have no one to talk with, to tell my trouble to.
my baby gone and left me. Someone tell me what more can I do? Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. Crying for my baby, buried another day is gone. Tell my trouble to my brothers in Iraq, and I don't know what to do. Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. Crying for my baby, and there ain't another day is gone. Oh, girl, I sure do hate to go. Goodbye, baby.
voilà, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Ça. Buddy Guy, donc, qui, je vous le rappelle, fera l'objet d'un dossier dans le prochain Soulbag qu'on vient d'entendre avec ce Black Knight, extrait de Damon Rae, I've Got the Blues en 1991. On revient sur le disque du mois avec Big Dez et on terminera avec notre rubrique habituelle 50 Years After, un album de 1971. Voici Big Dez avec Oh Baby Doll. Extrait de l'album Chicken in the Car and the Car Can Go de Big Dez. On termine en rock'n'roll et également en 1971 avec, souvenez-vous, il y a déjà un demi-siècle, cet album Four de Led Zeppelin. Ça s'appelle Black Dog. On se retrouve la semaine prochaine dans Sweet Home Chicago, samedi 13h. Salut, bye bye. C'était Sweet Home Chicago. À samedi prochain. Salut. Bye bye. Chicago.